disent maintient le niveau AA2, ça reste AA- pour Fitch. Elle juge la perspective stable pour le pays. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques, a réagi hier soir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le gouvernement vise toujours un déficit en dessous des 3% en 2027. Une contre-proposition d'Israël étudiée en ce moment par le Hamas, c'est ce qu'indique cette nuit le numéro 2 du mouvement islamiste en vue d'une trêve dans les combats à Gaza et la libération d'otages. On ne connaît pas encore le contenu de cette contre-proposition. Le Hamas, qui a reçu une réponse par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar, souhaite un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Les manifestants pro-palestiniens ont quitté les locaux de Sciences Po Paris ce vendredi soir. Ils les occupaient depuis jeudi. Les étudiants ont trouvé un accord avec la direction. L'école a accepté certaines revendications, comme la tenue d'un débat d'ici jeudi prochain et la suspension des sanctions engagées contre les élèves. Les abords de l'école avaient été évacués plus tôt dans la journée hier après des tensions entre pro-Palestine et pro-Israël. Il a à son actif 4 médailles olympiques et sera le premier porteur de la flamme sur le sol français. Florent Manaudou a été choisi par le comité d'organisation de Paris 2024. Le président du comité, Tony Estanguet, a dévoilé le nom du nageur hier soir après avoir récupéré le flambeau à Athènes. La flamme quitte la Grèce ce matin vers 9h30. Elle embarquera dans le mythique voilier Belém à destination de Marseille. Arrivée prévue le 8 mai prochain. Le Befortus, efficace contre les formes graves de bronchiolite chez les bébés, c'est ce qu'indique ce vendredi une étude de Santé publique France. Un quart des hospitalisations a été évité depuis l'automne dernier grâce à ce traitement développé par les laboratoires Sanofi et disponible depuis le mois de septembre. La bronchiolite avait lourdement pesé sur le système hospitalier français au cœur de l'hiver 2022. Une vidéo entraîne l'évacuation de 2 hôpitaux à Kiev, dont un pour enfants, annonce du maire de la capitale ukrainienne, qui craint des frappes russes. Cette vidéo diffusée sur Internet projette une attaque sur ces infrastructures hospitalières et prétend que des militaires sont présents à l'intérieur. Les patients ont été déplacés vers d'autres établissements. Les médecins du roi Charles III jugent son état de santé très encourageant. Le roi britannique doit reprendre ses activités publiques la semaine prochaine, indique ce vendredi Buckingham Palace. Charles III s'était mis en retrait début février après l'annonce d'un cancer dont on ignore toujours la nature. Match nul pour la première rencontre du week-end en Ligue 1 de football. Résultat un partout entre Montpellier et Nantes hier soir. La suite de la 31e journée aujourd'hui avec le PSG qui pourrait être sacré champion de France en cas de victoire. Les Parisiens reçoivent Le Havre à 21h au Parc des Princes.
Vous écoutez les Nuits d'Inter. Voici le mix de l'actualité de la semaine.
À la une cette semaine, Emmanuel Macron qui s'engage dans la campagne des européennes, Gabriel Attal qui joue les pères fouettards, mais d'abord un nouveau drame de l'immigration.
À quelques centaines de mètres de la côte, le moteur s'est stoppé et plusieurs personnes sont tombées à l'eau.
Le préfet du Pas-de-Calais après ce nouveau drame dans la Manche.
Malgré les tentatives de réanimation, 5 sont décédés.
Dont une petite fille de 4 ans, le maire de Vimereux, Jean-Luc Dubel, entre dépit et colère.
C'est pas possible de continuer dans cette situation. On laisse partir des gens à l'abattoir. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Et il y en a marre.
Il avait promis de passer à l'attaque contre la violence des mineurs. Lundi, Gabriel Attal était à Nice, où il a accueilli des élèves décrocheurs en stage dit de rupture.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord ? Non ? Bah c'est rassurant. Qui veut témoigner ? Vas-y. Allez, prends le micro.
Allez, dépêche-toi.
Elle dit que ma mère m'a forcé, c'est tout.
T'as forcé, d'accord.
Voilà une mère qui fait son travail.
Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument ?
Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes.
Donc t'es un peu en vacances.
Bon, toi, dis-nous alors.
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé. Et je vois que c'est pas bien, là.
Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin.
Voilà comment il faut parler aux jeunes. Après, quand ils vous posent des questions, c'est une autre histoire.
Vous en pensez quoi de Macron ?
Vous en pensez quoi de Macron ? Celle-là, il ne l'avait pas vu venir.
Ah bah, moi, je travaille avec lui, donc...
Je travaille avec lui, je ne peux pas dire grand-chose. Les critiques, on les laisse à l'opposition.
Quel accueil !
Raphaël Glucksmann, en campagne pour les européennes.
Aujourd'hui, nous avons voté la directive sur les travailleurs des plateformes. Et je dois dire que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron.
Raphaël Glucksmann, bien décidé à faire mieux que la liste défendue par le chef de l'État. Mais pour l'instant, c'est la liste RN conduite par Jordan Bardella qui fait la course en tête.
Notre adversaire dans cette élection européenne, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron au secours de la liste Renaissance, de retour à la Sorbonne.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Nouvelle convocation pour apologie de terrorisme. Cette fois, cela concerne la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot.
C'est à ma connaissance inédit qu'une présidente de groupe parlementaire fasse l'objet d'une telle convocation.
Manuel Bompard, coordonnateur de la France Insoumise.
Ça s'inscrit dans une dérive autoritaire du pouvoir en place.
Condamnation définitive pour François Fillon et son épouse dans l'affaire de son emploi fictif d'assistante parlementaire, 7 ans après cette déclaration d'amour.
Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime.
Condamnation, dit la Cour de cassation, mais nouveau procès à venir pour préciser sa peine à lui. Des records de chaleur début avril, suivi d'un épisode de gel au début de la semaine, scénario catastrophe pour les viticulteurs.
C'est foutu, ouais. C'est lunaire, quoi. Quand on a dit lunaire, il n'y a même plus une pousse verte qui apparaît sur la vigne.
Du gel, après un printemps précoce, ça ne pardonne pas.
3 semaines d'avance par rapport à l'habitude. Donc forcément, là, quand il gèle, on perd beaucoup plus qu'en période normale.
Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. À la rubrique Tout fout le camp, cette info qui jette un froid.
À Paris, les ailes du Moulin Rouge dans le quartier de Pigalle se sont effondrées dans la nuit.
C'est tout un symbole, c'est comme la tour Eiffel qui s'écroule, quoi. Et heureusement, sans victime.
C'était le mix de l'actualité de la semaine. All of my clue, slow summer's evening. Les Nuits d'Inter, suite et fin, avec Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
La protection de l'enfance, mise en cause depuis le suicide de Lily, une jeune fille de 15 ans dans une chambre d'hôtel à Aubière où elle avait été placée.
Le drame provoque depuis un électrochoc parmi les acteurs de la protection de l'enfance.
Comment se fait-il qu'une enfant de 15 ans, une mineure donc, se retrouve ainsi à vivre dans un hôtel ?
C'était en janvier dernier, le suicide de Lily, 15 ans, dans un hôtel près de Clermont-Ferrand où elle avait été placée par l'aide sociale à l'enfance. Avant Lily, il y a eu Nour, Jess ou Anthony, des ados qui ont aussi connu une mort tragique par manque d'encadrement, de suivi, de structure d'accueil adaptée à leur vie cabossée. L'été dernier, il y a eu aussi Amine, 3 ans, lui est mort en tombant d'un toit, défaut de surveillance des parents. Son placement avait été ordonné, mais pas mis en œuvre, faute de place disponible.
Tous les jours, on a un enfant qui n'est pas placé, par manque de place. On a une fratrie de 2 garçons là. Ils ont fait entre 13 et 20 familles d'accueil en 2 mois. Donc séparés, donc pas de scolarité. Et ça, c'est la réalité au quotidien. Et on est complètement en contradiction avec les droits de l'enfant.
En France, près de 300 000 mineurs sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance. 170 000 sont placés dans des pouponnières, des familles d'accueil, des foyers, des lieux de vie dédiés, mais aussi désormais dans des hôtels, comme Lily. Ils sont également des milliers en attente, malgré l'urgence, comme Amine.
Le petit Amine est mort samedi.
Qu'il soit juge pour enfants, référent de l'aide sociale à l'enfance, éducateur, médecin de la PMI ou assistante sociale, à tous les niveaux, des voix dénoncent un système à bout de souffle. Manque de place, de structure, de famille d'accueil, manque d'effectifs, de travailleurs sociaux, de formation, manque aussi de temps pour accompagner ces enfants, contrôler ceux qui les accueillent, manque enfin d'argent, car l'aide sociale à l'enfance relève des départements qui n'en font jamais une priorité.
C'est trop simpliste de dire que les départements n'ont pas d'argent. Il y a des départements effectivement qui sont en difficulté financière, mais il y a des départements aussi dont le choix n'est pas de miser sur l'enfance, mais de mettre sur des routes ou sur autre chose. Donc que l'État emmène de l'argent, certes, mais en échange, que le département en emmène aussi sur cette prise de conscience de la violence de notre pays envers nos enfants.
En 2022, le gouvernement a rappelé les départements à leurs responsabilités dans une loi censée améliorer les conditions de repérage, d'accueil et d'accompagnement des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Mais les décrets d'application tardent et on est encore très loin d'une réforme en profondeur. Aide sociale à l'enfance, République en souffrance. C'est un reportage de Faustine Calmel qu'on retrouve dans les Hauts-de-France, près de Lille, avec Fabien Gosset à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous sommes dans une rue du centre-ville d'Armentières. Ici a ouvert en octobre 2021 le seul foyer d'accueil d'urgence pour les fratries dans le Nord. C'est une jolie maison en briques avec une porte verte, un petit jardin devant, un autre derrière. Et ici sont accueillis une quinzaine d'enfants.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée. Entrez, je vous en prie.
Madame Belkacem,
je suis la chef de service en intérim de l'accueil d'urgence.
Enchantée.
Enchantée.
Enchantée. Ça va pour vous.
Enchantée.
Échangé par message, ouais. Par téléphone.
Ouais. Bonjour.
Alors là, bon,
allez.
Moi, je viens d'arriver, je
vais
vous montrer un café,
vous
voyez.
Et moi, je viens d'arriver, je sors d'audience et on va entrer en réunion.
Voilà.
Ok. Donc, voilà, mais allez-y, c'est notre quotidien, ne vous inquiétez pas.
Je vous en prie.
Merci. On est en train de faire visiter, pardon, votre maison. Mais je pense que vous êtes les mieux placés pour nous faire visiter, nous montrer les coins et les recoins. Est-ce que vous acceptez de faire la visite?
Oui.
Bon, eh bien écoutez, on vous laisse nous faire visiter.
Et là, je peux aller là.
Ici,
là-bas, c'est la cuisine.
Ils font quoi là-bas, la cuisine? Ils stockent quoi?
En fait, il faut faire à manger.
Et vous, vous participez à faire à manger ou pas?
Oui, des fois.
Et tu prépares quoi à manger?
On prépare des gratins dauphinois.
Dauphinois, c'est
ah, dauphinois.
Des gratins dauphinois.
Ouais.
Mais c'est bon?
Oui.
Quel âge vous avez toutes les deux?
Moi, j'ai 15 ans.
Moi, j'ai 6 ans.
Et ici, vous êtes avec vos frères ou vos sœurs?
Oui, moi, j'ai ma sœur jumelle en haut.
Et moi, j'ai ma grande sœur.
c'est la salle de jeu où les petits jouent.
Et que je vais.
Il y a la télé. Il y a une Xbox aussi pour que les... on joue.
C'est bien.
On monte en haut ou pas?
Ah. Oui. Hein.
Alors, ici, c'est ma chambre à moi et à ma copine qui est à l'école. Et aussi, on dort très bien ici et c'est là qu'on range nos affaires. Et on a une salle de bain.
Quand vous êtes arrivée ici, comment ça s'est passé votre installation? Vous pouvez me raconter?
Au début, c'était stressant. Quand tu passes de ta maison, elle est petite, dans une grande structure comme ça, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Mais en vrai, j'ai bien été accueillie par les éducatrices et voilà.
Quand j'étais arrivée ici, c'était bien. Et aussi, j'avais bien aimé les nouveaux que j'avais pour la première fois revus.
Le fait, l'une comme l'autre, d'être avec vos sœurs, est-ce que ça vous a aidé à vous sentir mieux ici?
Ouais, dans un sens, ça m'a un peu rassurée. Parce que je pensais que j'allais être séparée d'elles et être avec d'autres petits ou d'autres jeunes. Mais ça me rassure un peu d'être avec ma sœur et de dormir dans la même chambre qu'elle.
Bah, moi, ça me rassure d'être avec ma grande sœur parce que au moins, je peux pas rester sur ma grande sœur. Sinon, je pleure tous les jours de elle.
Et comment ça se passe une journée ici? À quoi elle ressemble, votre journée?
Pour ceux qui vont à l'école, les éducateurs, ils les réveillent le matin. Ils vont à l'école, ils passent leur journée à l'école. Et après, quand ils rentrent, ils prennent leur goûter. Et après, ils jouent ici. Ou alors, ils regardent la télé. Ou alors, ils vont dans le stade jouer. Et pour ceux qui n'ont pas l'école, ils font ça en une journée. Toi, vu que tu ne vas pas à l'école, tu fais quoi quand tu te réveilles le matin?
Quand je me réveille le matin, je déjeune. Je vais m'habiller. Et ensuite, je vais jouer avec les autres. Soit on joue au papa et à maman, ou soit des fois on joue aux poupées. Et aussi, il y a un jardin, parce que quand j'étais chez moi, il n'y avait pas de jardin. Avec un terrain de basket.
Avec un terrain, oui, c'est vrai. Je suis content que ça vous plaise.
Au terrain, on est parti aller dehors.
Tu veux voir dehors? Vas-y.
David Rondou, directeur des services hébergement Maison de l'Enfance et la Famille Métropole Lille.
Dalila Debal, adjointe de direction des services hébergement de la Maison de l'Enfance et de la Famille de Lille.
On est ici dans un foyer à Armentières, dit foyer d'accueil d'urgence fratrie. Comment ça se passe ici quand vous accueillez des enfants?
Effectivement, la spécificité de l'accueil d'urgence, dite d'urgence, effectivement, c'est des mesures, ce qu'on appelle des ordonnances de placement provisoires qui sont prises par le parquet. Donc effectivement, notre mission première, c'est d'accueillir à n'importe quel moment, du jour, de la nuit, une fratrie, le temps qu'effectivement la situation puisse être revue aussi par le juge des enfants et le placement confirmé ou pas.
Quand ils arrivent, comment est-ce qu'ils sont pris en charge concrètement?
C'est dans un contexte d'urgence, donc parfois ils peuvent arriver, ils n'ont pas forcément d'affaires, ils n'ont pas forcément de leur doudou. C'est des petites choses qui peuvent vous paraître anodines, mais qui sont importantes pour les enfants. Parfois ils arrivent directement de l'école parce que c'est suite à un signalement au sein de l'école. Alors certains, quand ils arrivent, ils savent mettre des mots sur les motifs du placement, mais pour d'autres, c'est très très difficile. Ça a été très très vite. Ils ont été amenés effectivement par la brigade des mineurs. Ils n'ont pas tout compris, tous les enjeux, le contexte du placement. Donc j'ai envie de dire vraiment, la première mission à ce moment-là, c'est de les sécuriser, de prendre soin d'eux.
Vous avez combien de places ici et combien d'enfants accueillis ?
Progressivement, on est monté en charge au niveau du nombre de jeunes accueillis. Quand on a ouvert le service, on avait une capacité de 8 jeunes. Puis on a très vite repéré les besoins au niveau de la métropole. Et puis quand on a que des fratries, on arrive vite à 8. Donc on a progressivement augmenté la capacité de prise en charge. Et aujourd'hui, on est à 13 enfants accueillis. Parfois, il faut savoir qu'on est un petit peu en suractivité, comme là, actuellement, parce qu'on a aussi le souci de ne pas séparer la fratrie. On a accueilli aussi une fratrie de taille importante. Aujourd'hui, on est à 16.
Et pour compléter, au sein de l'établissement, encore hier soir, nous étions sollicités pour un accueil fratrie de... C'était 3 enfants, donc ici on était déjà à 16, donc on a travaillé un accueil fratrie sur les autres services hébergement de l'établissement, hein, la maison de l'enfance et de la famille. Mais ça aurait été très très bien qu'ils puissent arriver ici, mais bon, à un moment donné, au niveau capacité d'accueil, on ne peut pas dépasser une certaine capacité d'accueil pour des normes de sécurité, donc on a une forte demande d'admission, hein, mais pour les fratries, oui, on est vraiment à flux tendu et on ressent vraiment ce besoin de place d'accueil fratrie.
On est rentré parce que j'ai mal aux jambes.
Aux yeux ?
On a non, mal aux jambes. On a trop couru.
Ceux qui décident du placement des enfants que nous avons rencontrés au foyer d'accueil d'urgence d'Armentières, ce sont des juges pour enfants. Ils ont des centaines de dossiers sur leur bureau au palais de justice de Lille.
Justine Régnier, je suis juge des enfants à Lille.
Et donc Pierre Msika, je suis également juge des enfants, donc au tribunal judiciaire de Lille. Donc le juge des enfants est chargé des missions civiles de protection de l'enfance, assurer la sécurité et la santé des mineurs. Donc ça peut passer d'une aide éducative à un placement pour les accompagner autour de ces questions-là, et puis également la famille.
Dans le cadre de cette aide sociale à l'enfance, combien d'enfants vous suivez l'un et l'autre ?
Je suis environ 370 familles, un nombre d'enfants qui est légèrement supérieur à 700 enfants sur mon secteur.
Pierre a des plus grosses fratries que moi parce que son secteur est composé de plus grandes fratries, ça va être la différence. Mais j'ai un peu plus de dossiers, mais moins de mineurs au total, mais c'est à peu près les mêmes chiffres.
Lorsqu'on a 370 familles, ça revient à la possibilité de les voir seulement une fois par an en prévoyant des audiences quasiment tous les jours. Donc en fait, quasiment tous les matins, on reçoit 4 familles pour évoquer la situation, faire le point sur les mesures qui sont en cours, envisager s'il y a lieu de les renouveler ou de les arrêter en fonction de l'évolution de la situation.
Et les voir une fois par an, c'est suffisant ?
Il y a des fois où c'est insuffisant, il y a des fois où on aimerait les voir plus régulièrement. Dans ces cas-là, on peut être amené à faire des audiences anticipées ou les recevoir peut-être à une échéance plus rapprochée. Mais on sait aussi qu'en faisant ça, eh ben, on va contribuer à surcharger nos agendas les matins et puis ensuite ça sera les après-midi. Plus de temps passé en audience, moins de temps pour préparer les dossiers et puis pour rédiger aussi les décisions qui sont prises.
Il y a une question ici dans le département du Nord, mais qui se pose aussi dans d'autres départements, qui est, une fois que vous avez ordonné un placement, il n'est pas toujours effectif. Ça, c'est une réalité de votre quotidien ?
Alors, c'est une réalité qu'on voit au quotidien. Il y a des placements qui ne sont pas effectifs. Là-dedans, je dirais qu'il y a un peu 2 catégories. Il y a la situation des placements qui ont été décidés en audience, mais pour lesquels le département n'a pas de lieu d'accueil pour la famille. Donc, il n'y a pas suffisamment de place. Donc, les enfants restent au domicile dans l'attente de la mise en place de ce placement. Et puis après, il y a d'autres situations aussi où je dirais qu'on ne peut pas dire techniquement que le placement n'est pas effectif. C'est les situations où les enfants vont être envoyés dans un lieu d'accueil, où ils vont rester, mais juste pour une période transitoire de quelques semaines, et puis ensuite vont aller dans une autre structure d'accueil, puis une autre structure d'accueil. Alors techniquement, le placement est effectif, mais il n'est pas conforme aux intérêts des enfants, et puis parfois il peut être extrêmement violent pour des enfants qui ont connu dans leur histoire familiale beaucoup de ruptures, etc. Donc voilà, c'est aussi... ces placements-là auxquels on doit faire face au quotidien.
Est-ce que pendant ce laps de temps, vous constatez des situations qui se dégradent, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, une perte de chance ?
Oui, des enfants déscolarisés qui ne reprennent pas du tout le chemin de l'école, des violences qui parfois sont de plus en plus importantes sans qu'on puisse intervenir, des conflits entre les parents qui s'accentuent. Il y a tout un tas de situations qui se dégradent parce qu'il n'y a pas de prise en charge, ça c'est certain.
Selon la loi, un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées. En cas de danger, le juge peut placer immédiatement l'enfant en dehors de sa famille. Cette mesure intervient en dernier recours. Des inquiétudes pour un enfant ? Contactez le 119.
Pour décider dans l'intérêt de l'enfant, il y a le juge des enfants.
Mais pour mettre en œuvre ces décisions, placement, aide éducative à domicile ou en milieu ouvert, pour signaler des maltraitances, vérifier des informations préoccupantes, pour aller au contact des familles, suivre les enfants, il y a les acteurs de terrain. Ce sont les référents de l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs, les médecins de la protection maternelle et infantile ou encore les assistantes sociales. Des professionnels qui oscillent aujourd'hui entre désarroi, fatalité et colère.
Interception sur France Inter.
Quand des enfants sont placés, que ce soit en foyer ou en famille d'accueil, ils sont suivis par des travailleurs de l'aide sociale à l'enfance, des éducateurs et éducatrices spécialisées comme Ludivine et Isabelle que nous rencontrons dans une des maisons Nord Solidarité du secteur de Roubaix.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, il y a quelqu'un.
Sinon, on va...
Ouais, bah, il est tout en face. Allez-y.
Donc Ludivine et Isabelle, on est ici dans votre bureau, dans le secteur de Roubaix. Combien d'enfants est-ce que vous suivez ?
On est arrivé à une certaine période, on pouvait arriver jusque 35, voire 40 enfants par référent. Après plusieurs mobilisations, on est arrivé à une trentaine d'enfants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On redépasse ce niveau de chiffres et qui nous met en grande difficulté pour accompagner les enfants.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de plus réussir à faire correctement dans votre travail au quotidien ?
Passer du temps avec les enfants. Parce que le but en tant que référent, c'est de créer un lien avec ses enfants, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Et puis, pouvoir passer du temps avec l'enfant, ça nous permet aussi d'affiner notre analyse et notre vision qu'on a de l'enfant et de pouvoir lui apporter vraiment ce dont il a besoin.
Est-ce que vous avez dans les enfants que vous suivez des enfants pour lesquels il y a eu des ordonnances de placement mais qui ne sont pas effectives ?
Tous les jours, on a un enfant qui n'est pas placé. Donc, est-ce qu'on a bien fait notre boulot ou pas ? En tout cas, on se culpabilise énormément d'être pas assez présent. On en arrive à ça, en fait.
Le 25 janvier dernier, il y a une ado qui était prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Puy-de-Dôme, qui était logée en hôtel et qui s'est suicidée dans sa chambre d'hôtel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Sur la métropole de Roubaix-Lille, on sait qu'il y a des jeunes comme ça qui sont accueillis en hôtel. Effectivement, c'est inquiétant parce qu'elles sont de plus en plus jeunes. Alors, à un moment donné, on disait on a beaucoup de mineurs étrangers. Donc, on banalisait les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas que des mineurs étrangers. On prend connaissance de lieux qui sont loués et on met des jeunes dedans avec des pas du personnel éducatif, mais du personnel qui est embauché par une agence d'intérim. C'est des jeunes qui vont partir à la dérive et qu'on va perdre dans l'accompagnement éducatif. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on est dans des négociations pour trouver des places, sauf que le lieu, il correspond peut-être pas aux jeunes, mais comme on n'a pas de place, on le met quand même. Et du coup, ça tient pas. On a une fratrie de deux garçons, là. Ils ont fait entre 13 et 20 familles d'accueil en 2 mois, par manque de place. Donc séparés, donc pas de scolarité. Et ça, c'est la réalité au quotidien, tous les jours. Et on est complètement en contradiction avec les droits de l'enfant.
Elle s'appelait Lily. Elle avait 15 ans. Elle s'est pendue il y a 3 semaines dans sa chambre d'hôtel près de Clermont-Ferrand. Cette jeune fille était suivie par l'aide sociale à l'enfance depuis ses 3 ans. C'est à cet âge-là qu'elle a été retirée à la garde de sa mère. Bonjour Lies Loufoque.
Bonjour.
Vous êtes l'un des porte-voix de ces enfants placés. Vous avez vous-même été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vous avez fait partie du Conseil national de la protection de l'enfance. Comment se fait-il qu'une enfant de 15 ans, une mineure donc, se retrouve ainsi à vivre dans un hôtel ?
C'est le résultat d'un système qui aujourd'hui est à bout de souffle, alors que les différentes affaires qui ont précédé le
drame... Parce qu'il y a 2 ans déjà, il y a eu un jeune de 17 ans qui est mort aussi, qui vivait dans un hôtel.
Oui, on a eu plusieurs.
C'est pas la première fois.
Non, malheureusement, il y a eu Nour à Paris qui s'est jeté dans la Seine, qui était également placé en hôtel. Il y a eu le cas de Jess qui a été poignardé par un autre enfant placé dans un hôtel à Suresnes. Il y a eu le cas d'Anthony Lambert qui...
On a quitté le secteur de Roubaix, on a traversé un quartier assez dégradé et puis on arrive à Tourcoing où là on va voir des travailleuses sociales de quartier donc, qui elles ne suivent pas directement des enfants déjà placés mais qui travaillent en amont, qui vont au contact des familles, qui rencontrent certaines familles et qui
quand elles sont face à une situation compliquée, peuvent faire ce qu'on appelle des informations préoccupantes, des sortes de signalements.
Bienvenue à la MNS de Tourcoing-le-Ville.
Martine et Agathe, on est ici dans vos locaux, donc les locaux d'une maison Nord Solidarité du secteur de Tourcoing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
On peut mettre en œuvre ce qu'on appelle des mesures d'intervention éducative à domicile, on peut mettre en place des accueils provisoires, on peut mettre en place des demandes de travailleuses familiales à domicile pour accompagner ses parents auprès de leurs enfants. Cependant, aujourd'hui, depuis plusieurs années, on observe une diminution de moyens qui s'est accentuée depuis fin d'année 2023. On a des refus de prise en charge d'intervention éducative à domicile ou d'accueil provisoire parce qu'il manque des moyens, mais des moyens humains. Donc nos collègues de l'aide sociale à l'enfance sont en sous-effectif. Si les mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre, les situations se dégradent et on en arrive à devoir judiciariser pour obtenir des mesures d'aide en milieu ouvert, donc qui sont judiciaires, ou des placements qui ne seront quand même pas mises en œuvre parce qu'il manque des places. Aujourd'hui, depuis octobre 2023, sur la direction territoriale de Roubaix-Tourcoing, il y a 18 enfants de moins de 3 ans qui ne sont pas placés malgré un danger grave et imminent. Tout ça parce qu'il manque des places.
Par exemple, vous intervenez auprès d'une famille, vous vous rendez compte qu'un enfant est peut-être, ou une fratrie est en danger ou risque de l'être. Normalement, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Une mesure d'intervention éducative, c'est nos collègues de l'aide sociale à l'enfance qui doivent normalement les effectuer, sauf qu'elles ne peuvent pas les prendre en charge. Donc, on fait partir nos demandes. Et là, c'est oui, vous relevez bien d'une intervention éducative à domicile. Cependant, l'aide sociale à l'enfance ne peut assumer cette mission. Ce sera donc un refus. Et qu'est-ce qu'on peut faire à côté ? Ben, on n'a pas de solution.
Vous, Agathe, je crois que ça fait pas très longtemps que vous êtes entrée dans ce métier. Comment vous vivez ça ?
Je le vis avec un sentiment de frustration. Je suis un peu bouleversée pour les familles, au final. Parce que si je me suis lancée dans ce métier, c'est parce que j'ai foi vraiment dans le domaine de la prévention. Et là, à l'heure actuelle, même si ça fait pas très longtemps que je suis ici, en fait, on nous donne plus les moyens de le faire et c'est très frustrant en tant que jeune professionnelle.
Parce que du coup, il y avait... Il faut juste que je le retrouve. Je suis... Donc voilà, en fait... C'est une demande d'accueil provisoire que j'ai instruite pour un couple à la rue. Ma dame est enceinte. La question se pose sur justement l'arrivée de ce bébé. La maman est mineure. Et je sollicite un accueil dans un centre parental pour justement voir un petit peu les conditions de prise en charge de cet enfant, voir la relation qui va se créer avec ce jeune couple. Et la réponse qui a été faite aux parents, donc c'est « Vous avez sollicité un accueil par enfant au centre parental auprès des services du département. J'ai le regret de vous informer que votre demande ne peut recevoir une suite favorable pour les raisons suivantes. » Faute de moyens sur le service de l'aide sociale à l'enfance. La mesure d'accueil par enfant au centre parental ne pourra donc pas se mettre en place. Quand vous avez un jeune couple, madame enceinte, qui vit dehors, qui est là dans vos locaux toutes les semaines pour vous demander où ça en est la réponse, qu'est-ce qu'on peut faire, comment l'enfant va naître, est-ce qu'on va me le placer à la naissance parce que je suis à la rue, et que vous ne savez pas quoi leur proposer d'autre parce que y a la réalité de la situation. Madame est mineure, ne peut pas rentrer dans le 115 parce qu'il faut une autorisation parentale. Étant elle mineure, elle relève du département dans le cadre de la protection de l'enfance. Et vous, vous n'avez pas de moyens.
Et là, c'est écrit noir sur blanc, faute de moyens.
Faute de moyens. Et ça, c'est une nouveauté. Moi, depuis que je travaille, je n'ai jamais connu cette situation où c'est noté sur un papier officiel qui est remis aux parents que faute de moyens de l'aide sociale à l'enfance, les mesures ne sont pas prises en charge.
Vous le savez parce qu'il n'y a que des éducateurs, assistants sociaux, chefs de service, beaucoup de gens qui travaillent dans la protection de l'enfance et qui savent les conditions dégradées actuelles de notre travail.
Nous voilà arrivés au Mans, dans la Sarthe. Depuis des mois, les travailleurs de l'aide sociale à l'enfance de ce département se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail et celles aussi de la prise en charge des enfants et de leurs familles. À Sablé-sur-Sarthe, tout près du Mans, un jeune garçon de 3 ans est décédé en juillet dernier. Il a chuté de son balcon alors que son ordonnance de placement avait été prononcée quelques jours plus tôt. Les travailleurs de l'aide sociale à l'enfance manifestent à nouveau en ce jour de janvier devant l'hôtel du département.
On est là parce que l'aide sociale à l'enfance en Sarthe dysfonctionne. On a entre 75 et 80 enfants depuis juillet qui sont en attente de placement. On a la majorité des contrats jeunes majeurs qui ont été arrêtés. Donc, stratégie du département, zéro.
David Gavaret, je suis délégué syndical CGT et je suis éducateur de profession.
Comment vous qualifieriez aujourd'hui la situation de l'aide sociale à l'enfance dans votre département, la Sarthe ?
Catastrophique, en un seul mot, parce que on a beaucoup de mineurs en attente de placement qui ont été jugés en danger par un juge des enfants et qui sont en attente de placement parfois depuis plus d'un an. Pareil, on a 400 mineurs qui sont en attente d'avoir un éducateur à domicile qui vienne les aider dans leur famille pour aller mieux.
Est-ce que ça représente des situations que vous qualifieriez de situations de danger ?
Oui, parce qu'en plus, elles ont été qualifiées par le juge des enfants qui fait une évaluation suite à des éducateurs qui peuvent être intervenus ou l'enfant qui a tout simplement signalé à sa maîtresse qu'il avait subi de la violence, enfin plein de situations très diverses. Et donc, ces enfants sont bien caractérisés par la justice en danger.
Il y a eu un cas dramatique au début de l'été sur ce petit garçon qui s'appelait Amine. Vous pouvez nous raconter ?
En fait, Amine, le juge des enfants a décrit qu'il était en danger et donc a décidé d'une ordonnance de placement provisoire. Ça veut dire que, tout simplement, il a décidé qu'il fallait qu'il soit retiré provisoirement de sa famille pour pouvoir aider cet enfant, puisque trois jours avant l'audience au juge des enfants, il a été déjà récupéré par les policiers, les pompiers, sur le toit de la maison. Pas de place trouvée par le département de la Sarthe pour qu'il soit protégé. Et il est retourné sur le toit, et là, malheureusement, il a chuté et il est décédé. C'est une situation catastrophique, mais que vivent bon nombre de mineurs au quotidien, dans le sens où s'ils attendent un an, il faut imaginer que là, pour ce jeune Amine, c'était sa mise en danger qui faisait qu'il était en danger. Mais pour d'autres, c'est parce qu'ils subissent des violences, parfois sexuelles, des violences physiques, des violences morales. Et ça, c'est quotidien. Donc il n'y a peut-être pas un risque de mort pour l'ensemble des mineurs, mais il y a un risque de ne pas bien se construire, d'être en souffrance. Et ça, c'est inacceptable.
Vous diriez que la responsabilité, elle incombe à qui ? C'est le département ? C'est l'État ?
Elle incombe d'abord au département sur sa politique, puisque on nous dit souvent dans l'action sociale qu'il n'y a plus de moyens, qu'on n'a pas assez d'argent. Le conseil départemental de la Sarthe, il a fait 80 millions d'euros d'excédent en 2022. Donc on a bien là des décisions politiques qui ne se prennent pas. Néanmoins, notre situation, elle n'est pas isolée. Sur le plan national, l'aide sociale va très très mal, que ce soit dans le nord, à Paris, dans le sud, peu importe. Parce que l'État délaisse aussi les départements et délaisse la protection de l'enfance. Pendant longtemps, on a été un métier caché. Personne connaissait un peu la situation, des éducateurs, des placements, des enfants. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux ont décidé de révéler tout ce qui se passait. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur un plan national. Donc il y a aussi une question du législateur, de l'Assemblée nationale, des députés, du politique au sens large, qui doit prendre à bras-le-corps cette question. Parce que, en fait, les jeunes qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance, dans nos foyers, avec des éducateurs, ce sont les citoyens de demain. Donc il faut qu'on les aide aussi à grandir sereinement et correctement, pour eux bien sûr d'abord, mais ne serait-ce que pour la société.
Perrine Goulet, députée de la Nièvre, présidente de la délégation aux droits des enfants. Je ne sais pas si la renationalisation ferait changer les choses, puisque de toute façon on aurait affaire aux mêmes acteurs sur le terrain. Donc je ne suis pas forcément convaincue. Qui plus est, on a déshabillé les services de l'État dans les départements depuis plusieurs années. Moi, typiquement, j'en discute avec mon préfet. On lui demande aujourd'hui d'interagir sur des contrats protection de l'enfance avec les départements. Il n'a pas de ressources qui connaît le sujet protection de l'enfance dans les départements. Donc du jour au lendemain, repasser en État ne me paraît pas forcément la solution. Quant à dire que les départements n'ont pas d'argent, moi je nuancerais. C'est-à-dire que tous les départements ne mettent pas forcément autant d'argent qu'il faudrait sur cette politique-là, mais ils ont de l'argent puisqu'ils la mettent ailleurs. Et je pense que le vrai sujet, par contre, et c'est là où on va avoir une discussion avec Eric Woerth sur la décentralisation, c'est est-ce qu'on doit continuer à laisser les départements pouvoir avoir des compétences larges, faire tout ce qu'ils veulent, et pas forcément prioriser les compétences qui sont les leurs au départ. Parce que quand on voit typiquement pendant des années les Hauts-de-Seine qui avaient des reliquats d'argent en quantité et qui n'étaient pourtant pas ceux qui accompagnaient le mieux les enfants. Donc c'est trop simpliste de dire que les départements n'ont pas d'argent. Il y a des départements effectivement qui sont en difficulté financière, mais il y a des départements aussi dont le choix n'est pas de miser sur l'enfance, mais de mettre sur des routes ou sur autre chose. Donc moi, je suis pas d'accord sur ce que disent les départements à ce niveau-là. Par contre, on a besoin effectivement, à mon avis, de revoir avec eux, peut-être de mettre un peu plus de contractualisation, c'est-à-dire que l'État emmène de l'argent, certes, mais en échange, que le département en emmène aussi sur cette politique qui, pour moi, est très, très importante.
Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est finalement si difficile à porter, qui reste encore un petit peu caché ou négligé ?
Alors, si je fais ma mauvaise foi, je dirais que c'est parce que les enfants ne votent pas et que c'est peut-être pas très intéressant politiquement d'investir sur ces jeunes-là. L'autre raison que je vois, c'est que on a l'impression dans la population, en tout cas, que ce n'est que les enfants des autres à qui ça peut arriver, que les enfants issus de familles défavorisées, or pas du tout. Et je pense qu'on a une difficulté de prise de conscience de la violence de notre pays envers nos enfants. C'est vraiment une société qu'il faut faire évoluer. Donc on a un peu cette évolution avec les adultes qui révèlent avoir été victimes d'inceste ou de violences sexuelles dans leur enfance, mais ça ne doit pas cacher toutes les violences ordinaires qui font un mal de chien aux enfants.
Si nous voulons pouvoir prévenir la pauvreté en agissant sur ceux qui en sont les victimes dès leur plus jeune âge, il nous faut mieux nous occuper des enfants de l'aide sociale à l'enfance.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Un sans domicile fixe sur quatre est passé par l'aide sociale à l'enfance et près d'un sur deux quand ils ont moins de 25 ans. 30% des mineurs délinquants sont aussi d'anciens enfants placés. Pour empêcher cette spirale, la loi de 2022 qui commence à être appliquée prévoit l'accompagnement des 18-21 ans au lieu d'une sortie sèche des dispositifs à leur majorité. Elle interdit aussi les placements à l'hôtel et systématise le contrôle des antécédents judiciaires de tous les professionnels ou bénévoles qui interviennent auprès des enfants. Il faut dire que les affaires de maltraitance, de violences sexuelles ont aussi terni l'image de l'aide sociale à l'enfance, au point que le recrutement de travailleurs sociaux est devenu un casse-tête, tout comme le renouvellement des familles d'accueil qui accompagnent pourtant contre rémunération plus de la moitié des enfants.
Est-ce que tu peux aller chercher une chose sur ma tablette ?
On retrouve Faustine Calmel dans le Nord, près de Douai, chez Anne et Marc, la cinquantaine et cinq enfants placés chez eux.
Non, c'est je me disais.
France Inter.
Hein ?
Interception.
Ouais, allez.
Il y a l'accueil en foyer, comme on l'a vu précédemment. Il y a aussi l'accueil au sein de famille. C'est le cas ici chez Anne. Elle est assistante familiale depuis plusieurs années à Auchy-les-Orchies, près de Douai. Elle accueille en ce moment cinq enfants et on va passer la soirée avec elle.
Bonjour.
Enchantée. Enchantée. Enchantée.
Alors, donc, c'est vous. Hein.
Bah, dites-moi comment vous voulez faire, parce que donc, comme on a dû le dire, nous, c'est des ados. Donc, c'est plutôt la spécialité des ados, c'est plutôt être dans sa chambre que d'être en bas.
Ouais.
Donc,
surtout quand ça rentre du collège.
Surtout quand ça rentre du collège, hein, ça a tellement de choses à faire, les devoirs en premier lieu. Bien sûr, vous vous têtez bien. Donc,
ils ont quel âge? Entre quel âge et quel âge?
Alors, ceux qui sont ici, là, en temps réel, ils ont 13 ans, 15 ans, 16 ans. Manque la 17 et la 18. Donc la 17 est en internat, donc on la verra pas ce soir. Et la 18, elle n'est pas rentrée, puisqu'elle fait ses études sans bac pro sur
un peu
au-delà de Valenciennes. Donc il y a du temps de trajet. Voilà. On a les trois plus jeunes.
Voilà. Le deal, normalement, voilà, ils rentrent à 5h15, ils ont une petite pause goûter qu'ils ont eue. Puis maintenant, bah, ils essayent de faire leurs devoirs. Et puis après, il y en a qui vont descendre à 6h pile, me dire « c'est l'heure des douches !» Et d'autres qui vont dire « je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Il y en a qui vont pas venir demander.
Enfin, on essaye de passer à 19h30.
La banalité, quoi. La vie tout à fait normale.
Donc moi, je m'appelle Anne, mon mari Marc. Donc on a un peu plus que 50. À un moment, on arrête de compter. Donc on accueille à nous deux 5 jeunes, de 13 à 18.
Donc madame a un peu plus d'expérience que moi dans le métier. Moi, je suis encore un bleu, puisque ça fait 2 ans que je suis rentré dans le métier. J'étais dans l'informatique, en milieu universitaire jusqu'à présent.
Donc moi, j'ai commencé il y a 17 ans. Avec une première jeune qui est encore ici. Donc c'est pour ça que ce sont des moments forts de notre vie.
Comment ça se passe quand un enfant arrive chez vous?
Alors je dirais qu'avant, c'était pas du tout la même façon que maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un temps de préparation un petit peu plus long. Ça nous est arrivé de voir l'enfant un petit peu avant, qui nous rencontre. Il y avait un petit peu plus de temps pour se poser. Maintenant, malheureusement, la plupart du temps, ça se fait dans l'urgence. On sait de moins en moins si les enfants sont abîmés, et ils sont de plus en plus. Donc, on va plus à tâtons qu'avant. Avant, c'est souvent le cœur qui parle avant tout, parce qu'on fait ce métier en premier lieu pour venir au secours, pour aider. Mais après, on doit évaluer plein de choses. On doit évaluer si l'âge, si le sexe de l'enfant correspond, si la problématique de l'enfant correspond avec les enfants qu'on accueille. Alors je dirais, quand il y avait de la place avant, c'était plus facile, parce qu'on proposait un enfant qui plus ou moins pouvait marcher avec les autres, et bien souvent maintenant c'est plus le cas.
Vous évoquiez le fait qu'on était moins préparé aujourd'hui, vous étiez moins préparé à l'arrivée d'un enfant. Est-ce que vous diriez, vous faites ça depuis 17 ans, Anne, que les conditions d'exercice de ce travail se sont pour vous détériorées?
J'en suis certaine. Donc déjà, il y a le fait que les référents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont quand même moins à nos côtés qu'avant. Il y a beaucoup moins de temps passé avec les enfants. C'est le système qui veut ça. Je pense que voilà, il n'y a pas de place. Donc peut-être que les juges, ils décident d'attendre encore un peu parce qu'il n'y a plus de place. Et puis du coup, des fois, les enfants, ils arrivent encore plus abîmés. Et donc parfois, on a un laps de temps assez court dans la petite enfance pour essayer d'empêcher que tout fuit. Et ben là, ils arrivent des fois bien trop tard et déjà bien abîmé. Donc le temps pour reconstruire sera encore plus long.
Ça ne s'arrête jamais non plus. Des enfants qui quittent le système sont remplacés par d'autres. Et je dirais même qu'il y en a plus qui rentrent qu'en sortent. C'est un système sans fond qui épuise tout le monde. Aussi bien les assistants familiaux que, à mon avis, les gens qui sont dans le bureau. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on constate un turnover pas possible dans les bureaux, des référents, des gestionnaires. Enfin, tout le système est à bout, finalement, parce que il n'y a pas de lumière à l'horizon, quoi. Et si on rajoute là-dessus qu'on a en plus forcément des contraintes budgétaires, on n'est pas sans savoir qu'il y a actuellement, et surtout les 2 années précédentes, une certaine inflation. Nos dépenses en tant que famille d'accueil sont essentiellement pour les enfants accueillis l'énergie, l'électricité, le chauffage, la nourriture et le carburant. Ce sont des denrées, on va dire, qui se sont pris entre 15 et 25% sur 2 ans. Nos frais ont augmenté à peine de 10 sur cette période. C'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles de ce côté-là.
Voilà.
Encore des devoirs pour demain?
Je dois lire un chapitre.
Non, je crois pas.
Je crois ou j'en suis sûre?
Je suis sûre que oui.
Que tu dois lire un chapitre?
Oui.
Et tu n'avais pas déjà dit ça hier soir?
J'ai avancé hier, il m'en restait 2.
Ah, ça
ça va aller.
Ce chapitre est plus long
prévu. Ouais.
C'est ça. Et toi, t'as encore quoi? Des maths?
Rien.
Toi, ça fait qu'on avait fini ce week-end, mais toi?
Oui, je pense pas que j'ai encore des
devoirs. Oui. Regardez pour moi. On va regarder tout de suite ça.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de faire ce métier? Et qu'est-ce qui vous aide à continuer à le faire? Parce qu'on a beaucoup évoqué aussi les difficultés. Mais je suppose que si vous continuez à le faire, c'est que malgré tout, vous y trouvez quelque chose de positif.
C'est les enfants. Je pense simplement savoir que on sera un petit peu une borne sur leur vie, sur leur parcours. Et que si cette borne, elle est correcte, eh ben, ils s'en sortiront plus tard. Ce qui est terrible, c'est que quand j'ai commencé le métier, une assistante familiale m'avait dit « Si t'en sauves un, tu verras, ça sera bien. » Quand elle m'a dit ça, je me suis dit « J'en sauverai plusieurs. » Maintenant, avec le recul, dans quelques années, parce que j'ai encore quelques années avant de ma retraite, je pense que je les compterai sur les... peut-être même pas sur les doigts d'une main. Des fois, j'ai l'impression qu'on appuie à deux mains sur une hémorragie et qu'on n'arrive pas à arrêter le sang, quoi. Tout compte fait, je sais pas pourquoi on continue.
Moi, sur le système en lui-même et sur l'avenir de la profession, je suis assez pessimiste. Je pense que les besoins explosent et en contrepartie, la volonté administrative ou politique est hélas de faire diminuer le budget ou de moins de rester à budget constant, ce qui n'est pas compatible. Donc, je ne vois pas trop l'avenir, comment ça va se passer. Ouais.
Je prends la troisième tomate.
Ouais.
Okay.
C'est le moment du repas, c'est un moment participatif.
Alors, ouais. On va dire que ça dépend de leur humour, souvent leur humeur. C'est pas grave. Prends un tien. Parfois ils s'empressent, hein, ils ont tellement de devoirs. Sinon, ouais, sur le.
C'est le début de l'apprentissage de l'autonomie.
Ouais, on a encore mis ici.
Puisqu'un jour ils vont devoir le faire en, parce qu'ils seront un peu en mode solo, donc il n'y a pas le choix. Il faut s'y mettre.
Passer en mode solo, comme dit Marc, pas facile quand on est tout juste majeur. Le gouvernement a récemment modifié les règles. Les jeunes de 18 à 21 ans doivent continuer à être pris en charge s'ils ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
On fait encore de l'atteinte de leurs 18 ans une date selon une exigence d'indépendance pour ces jeunes, alors même qu'ils ne peuvent compter sur personne.
Voilà pour la loi. Mais dans les faits, les contrats jeunes majeurs ne sont pas systématiques, loin s'en faut. Celui d'Élise, 19 ans, est remis en cause, source d'inquiétude, de colère aussi. Nous allons la rencontrer, toujours dans le Nord, dans la famille d'accueil où elle vit depuis 9 ans. Élise, on est ici dans la famille d'accueil où vous habitez depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord peut-être un petit peu votre parcours?
Donc, je suis arrivée le 4 juillet 2015 chez ma tata. Au début, on nous a expliqué qu'elle va nous donner des choses que nos parents n'ont pas pu nous donner. J'ai fait toute ma scolarité du collège ici et le lycée aussi. J'ai obtenu mon bac là récemment, en juin. Là, je suis sous contrat EVA depuis l'âge de 18 ans.
Un contrat EVA, c'est ce qu'on appelle aussi un contrat jeune majeur. C'est ce qui prend le relais, c'est ça, quand on devient majeur?
Oui, c'est ça. Au début, tout allait bien. Donc après, j'ai changé de référente. Donc, c'est une nouvelle référente qui est restée 3 mois et après, elle est partie. Donc j'ai eu une référente volante. Et pendant ce temps où j'ai eu ma référente volante, on m'a expliqué que je ne pouvais plus bénéficier du contrat EVA vu que je travaille dans une école. Et que pour eux, à la maison, je ne suis pas forcément autonome. Que contrairement à ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, nous, à la maison, on est autonome, on sait faire à manger, on sait ranger notre chambre, on sait aller à l'école tout seul, on sait faire comme les autres enfants font.
Aujourd'hui, vous avez 19 ans. On vous demande finalement de quitter cet endroit où vous êtes depuis près de 10 ans, c'est ça?
Oui, on me demande de quitter la maison parce que pour eux, je dois prendre mon autonomie tout seul. Sachant qu'on m'a obligée à visiter des foyers que je voulais pas. Un foyer où c'était pour des personnes âgées. Et après, dans un autre studio, donc dans un autre foyer où c'était, par exemple, on devait payer 50 euros de caution, plus le loyer à payer, plus les charges, l'eau, l'électricité. Et la dame, elle nous a répondu qu'avec moins de 100 euros, on pouvait vivre.
Aujourd'hui, pour bien comprendre, vous travaillez dans une école, vous gagnez combien? Si demain, vous deviez partir d'ici, c'est quoi vos revenus?
Je gagne moins de 400 euros.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous?
C'est de rester ici, de finir mes études tranquillement, sans qu'on m'oblige à faire quoi que ce soit, ou par exemple quitter la maison parce que on est sous contrat, du coup on peut pas faire ce qu'on veut ou autre. Je suis pas inquiète, mais très en colère, parce que on nous jette comme si on était des personnes exclues de la société. Mais on est des enfants comme tout le monde, on grandit comme tout le monde, donc en fait on comprend pas pourquoi nous les enfants de l'ASE, on est autant rejetés que les autres enfants qui vivent avec leurs parents. Ou...
Mise à la rue, parce que je l'accompagnerai jusqu'à ce qu'elle ait un travail, parce que je ne l'abandonnerai pas. Je ne ferai pas. J'ai fait un travail avec elle, elle s'en sort. C'est une enfant courageuse, donc il faut aller jusqu'au bout.
Aide sociale à l'enfance, République en souffrance, un reportage de Faustine Calmel, prise de son Fabien Gosset. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Louise Cognard, mixage Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr ou sur les applications du groupe Radio France.
Interception, une émission à réécouter ou à podcaster sur franceinter.fr. Dans un instant, le 6-9 de France Inter.
Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, retrouvez le meilleur des émissions et de l'info et donnez votre avis.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
Bienvenue sur France Inter, c'est le coup d'envoi du 6-9. Bonjour Ali Badou.
Bonjour Marion.